France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
Et si l'on regardait l'histoire des sciences et des techniques non pas sous l'angle de l'innovation, mais sous celui des échecs, que nous enseigne l'histoire des flops? Neuf innovations sur 10 n'aboutissent pas, et les causes de ces ratés ne sont pas toujours faciles à identifier. Il est déjà complexe d'innover et la qualité n'est pas toujours récompensée. L'exposition Flop au Musée des Arts et Métiers à Paris révèle cette autre facette du progrès. Dans ce patrimoine scientifique, on trouve la Pascaline, un cas d'école. Une prouesse intellectuelle mais aussi un bide que Blaise Pascal finit par abandonner et dont l'importance ne sera reconnue que deux siècles plus tard. Comme le disait Samuel Beckett, essayez encore, ratez mieux. Quels sont donc les vertus de l'échec? Histoire des techniques, un défilé de flop modèles. Marjolaine Chouche, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de projet de l'exposition Flop au Musée des Arts et Métiers, le MUAM. Pierre-Éric Mounier-Koun, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au CNRS, vous enseignez l'histoire des sciences et des techniques à l'école centrale Supélec et vous êtes membre du conseil scientifique de l'exposition. Un grand merci à vous deux d'être là parmi nous en direct dans nos studios à France Culture et puis merci à vous également d'être là. Rendez-vous en écoute, en podcast à toute heure. Vous pouvez également suivre cette émission en nous suivant sur Blue Sky. Tous les jours, on poste pour vous de nombreuses ressources complémentaires. C'est à retrouver sur notre compte @sciencesCQFD. Alors comment s'explique un flop? Pour quelles raisons sont-ils déconsidérés? Pourquoi porte-t-on un regard si négatif à leur égard? Nous sommes ensemble une heure pour répondre à ces questions. Mais d'abord, échec, raté, bide, faille, flop, fiasco, déconfiture, on a beaucoup de synonymes. Mais Marjolaine Chouche, c'est pas si aisé de définir le flop.
Non, c'est pas évident. D'ailleurs, quand on a conçu cette exposition, il y avait vraiment cette idée de se dire « mon flop n'est pas ton flop ». Et inversement, c'est-à-dire que dans notre perception du raté, c'est très variable. On peut considérer qu'on a complètement raté quelque chose et au contraire, les autres nous disent « mais non, pas du tout, c'était très réussi ». Et de la même façon, on peut parler de flop industriel ou de flop économique. Et finalement, tout ça est souvent un peu plus nuancé que ça.
Et on verra en effet quelles sont ces différentes nuances de cette histoire-là. Mais Pierre-Éric Mounier-Koun, comment justement on réussit à définir un flop? Comment l'histoire des sciences et des techniques s'empare de ce concept?
Il y a beaucoup d'approches, beaucoup de définitions. Je rejoins tout à fait Marjolaine sur la difficulté à cerner un flop, puisque ton flop n'est pas mon flop. Je voudrais dire d'abord que par coïncidence, ce matin, je suis retourné voir l'exposition en y emmenant mes 25 élèves ingénieurs. Et puis on est ressorti de l'exposition et en sortant de la salle d'exposition, j'ai entendu derrière moi quelqu'un éclater de rire. C'est-à-dire que c'est la première fois que je vois une exposition qui déclenche des fous rires. C'était vraiment le cas. Sans doute dû aux objets improbables et introuvables de Jacques Carrelman. Mais qui ne sont, eux, pas des échecs, puisqu'ils ne visaient pas à être des réussites.
Donc,
ils ne visaient pas à marcher. Ouais.
Jacques Carrelman, qui, on le signale, un artiste pataphysicien qui, justement, s'empare de l'absurdité de certaines innovations. Et qui donne, du coup, des objets complètement improbables.
Et parodiques.
Marjolaine Chouche. Sur, justement, oui. ce rire qui peut être présent dans cette exposition et sur cette histoire scientifique.
Oui, nous, on avait envie de parler d'innovation, en fait, dans cette exposition. C'était vraiment ça notre cœur de mission et d'en parler par le petit bout de la lorgnette, par ce qu'on ne montre pas d'habitude, justement par cette histoire qui est souvent un petit peu cachée dans des récits très très magiques, de dire voilà, Eureka, la bonne idée, l'invention comme ça qui sort de nulle part et qui est tout de suite un succès ou qui ne l'est pas forcément tout de suite un succès, mais dont on tait ces étapes intermédiaires, ces tâtonnements, ces essais et ces ratés. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup aussi dans notre musée, au Musée des Arts et Métiers, où on présente souvent l'histoire des techniques comme un long fleuve qui glisse comme ça, qui est linéaire, qui ne s'arrêterait jamais, et une espèce de voie du progrès sans faille et sans rater. Et on avait envie justement d'interroger cette partie-là, ce qu'on ne montre pas habituellement, et de montrer à quel point c'était important dans la dynamique d'innovation de rater, de tâtonner, d'essayer et que c'était souvent comme ça qu'on trouvait les bonnes idées à la fin.
Vous montrez justement dans la première partie de l'exposition du CNAM, vous présentez un large éventail de manières d'échouer, Marjolaine Chouchou. Mm-hmm.
Oui, oui, bah il y a plein de façons d'échouer. On peut rater parce que ce qu'on a inventé, voilà, est trop cher, trop dangereux, mal conçu. Voilà, il y a plein de façons différentes où ça pose des problèmes d'éthique, des problèmes de réception, des problèmes d'usage. Voilà, il y a plein de façons de rater.
Il y a plein de façons de rater et on va parler de ce cas d'école, donc la Pascaline, cette machine à calculer, précurseur de l'informatique moderne. Elle constitue le premier fait d'arme du jeune Blaise Pascal et comme un grand nombre d'inventions dans l'histoire, un flop.
Entre cette machine et celle-là, 3 siècles et demi se sont écoulés. À l'origine, l'intelligence remarquable d'un adolescent clermontois, Blaise Pascal, qui lui a permis de découvrir en 1640 le principe de la machine à calculer. Aujourd'hui, il ne reste que 9 de ces machines, dites pascalines.
Cette machine est donc une machine numéraire, comptable, qui additionne les sols, les deniers et les louis. Alors, la première roue qui manque malheureusement comportait 12 crans, puisqu'il fallait 12 sols pour faire un denier. Ensuite, il fallait 20 deniers, ce qui explique que sur cette roue, on ait les 20 crantations. 20 deniers pour faire un louis. Et donc à partir de cette troisième roue, l'addition se fait normalement en louis. Grâce à un système que vous allez pouvoir voir ici, d'engrenages, vous les voyez, et de clapets qui donc effectuent automatiquement les reports d'un côté sur l'autre.
Et à l'origine, en fait, c'était pour aider son père à s'y retrouver dans ses chiffres.
Et oui, son père avait été nommé intendant en Basse-Normandie, à Rouen. Donc il était chargé de remettre de l'ordre dans toutes les finances de cette province. Et le pauvre y passait des nuits avec des problèmes insurmontables de chiffres. Et Pascal, qui était tout jeune, qui avait 17-18 ans, a donc fabriqué ça pour aider son père. Et je dois dire que son père n'a pas voulu l'utiliser au départ parce qu'il trouvait que c'était trop compliqué, qu'il allait encore plus vite à faire ses conversions à la main avec la plume d'oie.
Il n'y a pas que son père qu'il ne put convaincre, puisqu'il n'en a vendu, pense-t-on, qu'une trentaine. Car pour les intellectuels de l'époque, cette invention restait une curiosité. Toujours est-il que Blaise Pascal a construit lui-même ses machines en laiton, ébène et acajou, n'ayant pas trouvé un seul horloger capable d'ajuster les engrenages. Il est vrai qu'en ce XVIIe siècle, nul ne pouvait imaginer que Blaise Pascal serait le précurseur des machines électroniques du XXe siècle.
Un extrait du JT de France 3 Auvergne en 1985, la voix de Gérard Tisseron, donc conservateur du Musée des Arts et Métiers de Clermont-Ferrand, Pierre-Éric Mounier-Koun. Cette Pascaline, pourquoi a-t-elle été abandonnée?
Parce qu'il n'y avait pas de marché.
Ah.
C'est vraiment un autre problème. Alors que Pascal est un modèle d'inventeur, et même un modèle d'innovateur d'une certaine mesure. C'est aussi une façon de répondre à l'envers à la question de ce qu'est un flop. Qu'est-ce qu'une innovation ? Une innovation, c'est d'abord le rapprochement de deux ou plusieurs techniques ou concepts qui jusque-là vivaient, existaient dans des univers, dans des domaines différents, et qu'on fait soudain converger et fonctionner ensemble. Blaise Pascal a rassembler l'arithmétique et les mécanismes d'horlogerie. Il a fait construire ces machines par des horlogers et il a, de cette façon, inventé la machine à calculer. À son époque, il y avait un besoin qui commençait à croître. Le père de Pascal était receveur des impôts de la généralité de Rouen et il était au service d'une administration royale en plein essor. On était sous Richelieu, Louis XIII. En gros, ça servait à payer les mousquetaires. Voilà. Et il en a construit une cinquantaine de modèles expérimentaux. Donc il est passé par beaucoup d'essais et d'erreurs qui ne le satisfaisaient pas, jusqu'à ce qu'il arrive à en faire des modèles à peu près fonctionnels, dont il a construit 20, dont il a fait construire 20, ce qui est un exploit pour l'époque, qui ont surtout été achetés par des grands hauts fonctionnaires de la couronne ou donnés. Mais 2 siècles plus tard, le même genre de machine a été mis en fabrication, ça s'appelait l'arithmomètre, par Thomas de Colmar, au milieu du 19e siècle. Thomas de Colmar lui-même, en pleine révolution industrielle, a mis 10 ans à commencer à vendre des machines. Donc le problème de la formation du marché est très, très coûteux, très difficile, même pour une machine bien conçue et bien réalisée.
Oui, vous êtes d'ailleurs, Pierre Mouniécoune, en train d'écrire un livre sur l'histoire des machines à calculer. Et donc, la Pascaline, finalement, son principal acquis, c'est d'avoir prouvé qu'on pouvait réaliser une machine à calculer. Mais il faudra donc attendre plusieurs siècles pour voir cette innovation s'épanouir. Le flop, c'est donc souvent lié à une réalité commerciale, Marjolaine Chouche.
Oui, il y a une réalité commerciale et puis il y a une question de temps. Clairement, je pense que la Pascaline, elle arrivait un petit peu trop tôt. C'est d'ailleurs comme ça qu'on on l'a rassemblée avec d'autres objets sous cette dénomination de section dans l'exposition. Ça a été un vrai sujet pour nous de mettre la Pascaline. Je fais une toute petite parenthèse parce que c'est quand même parmi nos objets phares dans les collections du musée. Et lui mettre l'étiquette de flop, c'était loin d'être anodin. Ça a fait l'objet de grandes discussions au sein du conseil scientifique. Mais il y avait quand même cette idée du jalon, de la prouesse, de la démonstration, en fait, de la preuve de concept de la Pascaline et qu'on a voulu mettre en avant dans l'exposition. Mais évidemment, on ne peut pas dire que Pascal n'a pas vendu sa Pascaline parce qu'il n'y avait pas de réelle volonté commerciale de sa part. Il y avait une véritable volonté de démonstration, de preuve et de compétences de mécanisation, mais il n'a jamais envisagé, en tout cas on n'a pas de trace d'un projet commercial. Mais c'est vrai que très très souvent c'est ce qui fait flop. On a beau inventer la plus belle invention du monde et l'invention la plus pratique, si personne n'est au courant et si personne ne trouve ça intéressant, en effet, ça n'aboutit pas. Et il peut y avoir aussi des détournements d'usage qui peuvent détourner les choses aussi.
Pierre-Éric Mouniécoune.
Oui, l'impact le plus important de la Pascaline, c'est effectivement d'avoir prouvé qu'il était possible de mécaniser une opération intellectuelle comme le calcul. Et ça n'a jamais été oublié. Il y a des machines qui ont fait flop et qui ont été oubliées. Celle-là, on la retrouve un siècle après dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. On la retrouve dans pas mal de dictionnaires et elle est étudiée par tous les inventeurs de machines à calculer du 19e siècle.
Les machines oubliées que vous évoquez, vous pensez à la machine de Babbage, qui a été justement redécouverte par les pionniers de l'informatique.
Exactement.
Enfin, redécouverte même, en fait tout simplement,
oui,
découverte.
Des gens qui ont commencé à développer les premiers ordinateurs dans les années, ou les premiers grands calculateurs programmables dans les années 1930-1940, ont un jour entendu parler de Babbage par quelqu'un qui leur a dit « Mais tu sais, il y a un Anglais qui, il y a un siècle, a fait exactement ce que tu es en train de réaliser, mais qui a fini par abandonner. » Et à ce moment-là, ces gens sont allés voir dans les archives, ont redécouvert Babbage et se sont comme ça donné une espèce de père spirituel, de héros fondateur. Babbage est resté longtemps un héros fondateur de l'informatique jusqu'à ce qu'on mette Turing à la place.
Voilà, un titre un peu plus tardif comme père de l'informatique pour Babbage. Alors, la Pascaline est dans la catégorie des flops parce que trop tôt, il y a la catégorie donc dangereux avec la crème de jour Toradia ou Radium qui est développée dans les années 20 en pleine vague d'enthousiasme. Bon, avec d'enthousiasme pour la radioactivité avec un médecin charlatan au nom d'Alfred Curie. Et puis on a la catégorie mal fichue. Alors, l'échec en effet résulte parfois simplement d'une conception fondamentalement mauvaise, Marjolaine Chouche.
Oui, et la conception, elle peut se placer à plein de niveaux différents. Ça peut être dans le choix des matériaux, par exemple, qu'on a décidé d'utiliser pour réaliser le projet. Ça peut être aussi dans les calculs de préparation, dans les logiciels, dans on a comme exemple notamment ce bateau, le Vasa, commandé par le roi de Suède à la fin du XVIIe siècle et qui, suite aux demandes du donneur d'ordre, s'est retrouvé avec l'ajout d'un troisième pont, de canons supplémentaires, etc., pour impressionner encore plus les concurrents ou les potentiels belligérants, et puis qui a coulé dès sa première mise à l'eau, puisque la coque n'était pas faite pour supporter autant de ponts, autant de poids. Donc la conception, elle peut... Voilà, il y a vraiment plein de moments différents où ça peut capoter, finalement. Et c'est presque un exploit que des fois ça marche.
Puis aussi dans cette catégorie des mal fichus, l'Helica, voiture à hélice inventée dans les années 1920. On voit bien que la traction aérienne n'est pas le bon mécanisme pour faire avancer une voiture. Alors, le flop est-il causé par ses concepteurs, par ses usagers? Tient-il aux éléments qui composent l'objet, aux ensembles de fonctionnement dans lesquels il s'inscrit? Restez avec nous.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
La route de l'innovation est pavée de fiascos. On parle des échecs dans l'histoire des techniques en direct sur France Culture avec Marjolaine Chouche et Pierre-Éric Mounikoun. On vient de voir que l'histoire des techniques n'est pas un long fleuve tranquille. On vient de parler des différentes façons d'échouer. Mais allons voir de plus près ce riche patrimoine technique avec le reportage du jour. L'histoire des ratés, des échecs scientifiques nous montre qu'ils peuvent aussi être source de progrès a posteriori. C'est l'intention de l'exposition FLOP qui se tient donc en ce moment au Musée des Arts et Métiers à Paris. Et on en parle avec vous, Céline Lezen. Bonjour.
Bonjour, Natacha.
Vous avez visité cette exposition et vous êtes penchée sur quelques cas emblématiques.
Oui, comme la première voiture non adaptée à la chaussée, la fusée Ariane mal calibrée qui explose au décollage ou encore le clavier informatique trop ergonomique, mais trop déroutant aussi. Voilà un échantillon des inventions qui ont raté leur succès. Dans une scénographie aux allures de grenier, on saisit derrière la pluralité des cas des raisons souvent communes. Mauvaise analyse du besoin, erreur de communication ou de mesure, ou encore conflit des méthodes. Jean-Baptiste Ten, chef de projet de l'exposition, nous amène à découvrir une autre version du progrès qui se construit souvent sur un socle d'échecs.
Là, on est devant le fardier, le modèle du fardier de Cugnot. C'est le premier objet qui pouvait bouger par la seule force de son moteur. Mais à côté de ça, c'est un flop monumental parce qu'il n'a pas... il faut 3 heures pour faire chauffer la chaudière. C'est très compliqué à mettre en œuvre. Il ne peut pas aller très très loin. Il ne va pas vite. Et en plus, le contexte n'est pas là puisque à l'époque, il n'y a pas de route. Comme le truc pèse 4 ou 5 tonnes quand il est chargé, il s'embourbe dès qu'il y a un petit peu de chemin de terre. Donc il ne marche pas, mais c'est le premier.
Dans l'espace. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression qu'on est dans un grenier bien aménagé avec des cartons partout. La scénographie est très intéressante.
C'est ça, les scénographes se sont dit « Ah mais voilà, ça nous a fait penser à quelque chose, c'est comme si on ressortait les projets des cartons ». C'est une sorte de vide-grenier là dans cette première partie où on a dans la catégorie des objets un peu avec des erreurs de conception, on a la sonde Mars Climate Orbiter qui est une sonde de la NASA qui devait se mettre en orbite autour de Mars et donner des indications sur le climat, qui s'est crashé parce que la NASA parle en système métrique et le fabricant de la sonde utilise le système américain. Et donc, les données qui sont envoyées entre les différents logiciels ne sont pas avec des unités.
Et il n'y a pas de correspondance, de cohérence au niveau des unités de mesure.
Voilà, c'est-à-dire que le premier logiciel envoie un certain nombre de données, mais sans préciser que ce sont des livres-force. Et l'autre les interprète, prend ces données-là en pensant que ce sont des newton-mètres. Et ce n'est pas le cas. Et donc les valeurs ne sont pas les bonnes. Et la sonde passe à 50 km de la surface au lieu des 180 prévus et se crache. La deuxième partie de l'exposition, c'est donc consacrée au travail de Jacques Carelman, qui est un peintre qui travaille beaucoup sur l'absurde. C'est un nous-pimpien. Il a été membre de l'ouvroir de peinture potentielle. Il a été également pataphysicien. Et c'est à la fois une parenthèse poétique, mais c'est aussi une petite leçon de choses où on comprend bien que quand on conçoit un objet, quand on a un projet. Si on essaie de mixer deux fonctions qui ne sont pas compatibles l'une avec l'autre, on est voué à l'échec. Donc la troisième partie, qui est une grosse partie, parce qu'on rentre vraiment dans le détail. Donc on a un projet comme ça, Aramis. L'idée générale, c'était d'avoir des navettes de petite capacité, d'en avoir beaucoup sur un réseau qui était très maillé, assez dense, plutôt en banlieue pour rapprocher les gens du centre-ville et de résoudre la question de la congestion des centres-villes. Donc trop de voitures. L'avantage, c'est que là, une fois qu'on est à destination, on descend, mais le véhicule repart. Matra avait proposé le concept et la RATP devait le mettre en œuvre. C'est un projet qui a duré très très longtemps puisqu'il a commencé en 1971 et qu'il a été abandonné en 1987. Là, ça nous permet d'illustrer la difficulté de la gestion de projet. On a plein d'acteurs, ils sont pas tous d'accord entre eux. Ils ont des objectifs qui sont pas les mêmes. Et petit à petit, on s'est retrouvé avec une ligne de métro classique, presque, Il n'y avait plus de possibilité pour les véhicules de se séparer, d'aller à tel endroit, etc. Mais avec un matériel qui demandait une maintenance, qui n'était pas encore au point, et qui demandait une maintenance énorme. Ce qui fait que le projet était abandonné. Il a eu plein de répercussions, c'est-à-dire que beaucoup de choses qui ont été inventées pour ce projet ont été ensuite réutilisées, et c'est ce qui permet la ligne 14 aujourd'hui. Mais Aramis n'existe pas. C'est un échec au sens où il n'a pas, on n'a pas eu la possibilité d'avoir ces petits véhicules qui ont fonctionné. Donc, pour aller vite dans cette partie, on interroge la question de ce qu'on appelle la dépendance au chemin ou le sillon technologique. C'est quand des choses sont devenues tellement habituelles qu'on ne peut plus innover dans le secteur. Et l'exemple qu'on a pris, c'est le clavier. On a d'autres possibilités que c'est le clavier AZERTY pour saisir ce qu'on veut.
C'est vraiment intriguant d'observer ces pièces mécaniques. Elles sont très jolies par ailleurs.
Voilà.
Mais de se dire qu'on aurait pu aboutir à ça, c'est assez déroutant.
Alors en fait, ce système-là utilise non pas des tringles.
Dis à ton sort.
Voilà. En fait, c'est la machine qui s'appelle la dactyle. Il utilise un cylindre où il y a toutes les lettres. Et quand on appuie sur une touche, ça oriente la lettre et ça tamponne. Donc on n'a pas ce problème mécanique. Et ce qui fait que le fabricant propose une combinaison de touches, une répartition des touches, qui est beaucoup plus ergonomique que le AZERTY de l'époque. Et le fait que, et c'est ce qu'on va voir ensuite, c'est que ce soit l'inventeur Claude Marsan ou aujourd'hui les claviers qui sont basés sur la répartition de Dvorak ou Beppo. Beppo, c'est quelque chose qui date de 2006. Ce sont des dispositions qui sont normalement, qui sont beaucoup plus ergonomiques que l'AZERTY ou le QWERTY. Ce sont des dispositions où les lettres tombent plus naturellement sous les doigts, où on a une alternance entre la main droite et la main gauche. Les deux travaillent à peu près à la même quantité. Les voyelles sont à gauche, les consonnes sont à droite. Les signes ouvrant, fermant, parenthèses, etc. sont réunis au même endroit. Il est beaucoup plus ergonomique. Mais on est tous habitués au clavier AZERTY. On a appris à travailler comme ça. Il faudrait que tous en réapprennent. Il faudrait que tous... on change nos claviers, qu'on aille chercher les nouveaux, etc., pour que cette invention devienne vraiment quelque chose qui se généralise. Et on se rend compte que le coût pour arriver à cette généralisation, il est beaucoup trop élevé. Alors on se satisfait d'un clavier qui n'est pas si ergonomique que ça.
Merci, Céline Lozen. Nos reportages loin du studio, c'est notre collection La Science au Labo, une collection à podcaster sur votre appli préférée, l'application Radio France, bien sûr. Marjolaine Chouche, on entendait là le cas du clavier QWERTY, cette dépendance au chemin ou le sillon technologique. Ça dit que finalement que l'histoire de l'innovation, ça récompense pas toujours la qualité.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a choisi cet exemple du clavier parce que des claviers, on en utilise tous au quotidien, que ce soit des claviers d'ordinateur, sur les smartphones, c'est quelque chose maintenant avec lequel même on grandit. Et on s'est rendu compte que oui, depuis très longtemps, depuis les machines à écrire, on se pose des questions sur la disposition des touches, comment mécaniser justement, on parlait de mécanisation du calcul tout à l'heure, mais comment mécaniser aussi l'écriture et donc on avait en collection quelques exemples de machines à écrire. Pour certaines qui ne ressemblent même plus à des machines à écrire, certaines même avec un petit stylet, une touche à appuyer, pour pouvoir valider sa lettre. Donc on sort carrément de la disposition classique d'un clavier, même au niveau de la pratique. Et puis surtout cette permanence finalement du clavier QWERTY, du clavier AZERTY dans le temps, même une fois qu'on est détaché de ces problèmes matériels de tringlerie, de machine à écrire. Donc on se rend compte qu'il y a eu plein de tentatives, que ça soit celle de Claude Marsan qui avait même obtenu une norme ISO pour son clavier, ou justement plus récemment les claviers Beppo et Dvorak qui sont les alternatives les plus en vogue, mais on reste quand même sur un marché de niche pour le clavier. Et finalement, oui, on reste sur le clavier AZERTY. On a dans l'exposition un petit dispositif où on propose à nos visiteurs de se comparer à l'AZERTY et au BEPO en ayant un texte à taper le plus vite possible en 30 secondes. Bon, en proportion, c'est à peu près 10 pour 1 hein, quand on n'a pas l'habitude du BEPO. Et ce qui est assez drôle, c'est que donc on a trouvé des claviers BEPO pour l'exposition. Le premier clavier qu'on a eu dans le dispositif a été très rapidement abîmé pendant au tout début à l'ouverture de l'exposition. On a voulu en racheter un tout de suite pour pouvoir le remplacer. Et on s'est rendu compte que le fabricant avait arrêté de les fabriquer parce qu'il n'en vendait pas assez et qu'il était en train de liquider les restes de son stock. Donc voilà, c'est pour dire qu'on est quand même très loin d'un grand remplacement du clavier.
Vous aviez sous la main donc un vestige. En tout cas, cette histoire de l'invention et de l'évolution des claviers, Pierre-Éric Mounier-Koun, ça montre bien, c'est un bon exemple quand même pour illustrer le cheminement d'une invention dans la société.
Oui, la question de la dépendance au sentier, c'est un des grands thèmes de réflexion et de débat en histoire des techniques. L'histoire du clavier QWERTY-AZERTY a fait l'objet d'un célèbre article d'un historien économique qui s'appelle Paul David et qui a ensuite suscité des controverses énormes, des colloques, des livres, des myriades d'autres articles parce que il explique comment, pour deux raisons. D'abord, il explique comment un dispositif technique conçu pour comme solution à un problème précis, se pérennise dans les décennies et les siècles et survit bien après que ce problème ait disparu. On a toujours des claviers QWERTY ou AZERTY alors qu'on n'a plus de tiges qui risquent de s'en mêler dans les machines à écrire sur nos ordinateurs. Une autre raison du succès de cette analyse d'indépendance du sentier, c'est que ça montre ce que Marjolaine disait, c'est que contrairement à un économisme classique simpliste, le marché, les clients ne sélectionnent pas systématiquement le meilleur produit au prix le plus bas. Ils sélectionnent avant tout le prix le plus bas ou plus généralement ce qui leur coûte le moins cher. Et ce qui leur coûte cher quand ils ont appris à taper à la machine sur des claviers QWERTY, c'est de changer de système, c'est de réapprendre. On en a un exemple classique qui n'est pas dans l'exposition mais qui est bien connu, c'est celui du calibre, de la largeur des voies de chemin de fer. Qui a-t-on longtemps expliqué, correspond à la largeur de la croupe des chevaux qui, au début du 19e siècle, tirait des wagonnets sur les rails dans les mines de charbon en Angleterre. Et un autre exemple, un peu à contrario, qui est montré dans l'exposition, c'est une horloge décimale qui date de l'époque de la Révolution. Quand les Jacobins ont voulu étendre le système décimal jusqu'au comptage de l'heure, des minutes et des secondes. Et donc, on a construit des horloges décimales qui n'ont pas pris. Ça a été assez vite abandonné, comme la semaine de 10 jours. Ça n'a pas tenu parce que ça n'apportait rien. Alors que le système décimal dans les unités de mesure apportait beaucoup à la société, là, une horloge décimale n'apportait rien. Et surtout, les gens étaient habitués depuis 3000 ans à compter les jours en 24 heures et les heures en 60 minutes.
On se demandait si ce n'était pas le lobby des horlogers qui était derrière ce...
pour renouveler
tout
le stock.
Oui, parce que renouveler tout un stock d'horloges, c'est vrai que l'horloge qui est présentée dans l'exposition, c'est une horloge qui permet d'avoir la traduction. Là, elle affiche à la fois l'heure décimale et l'heure classique. Et c'est vrai que c'est quand même une prouesse d'horlogerie. Et il fallait au moins ça pour s'y retrouver dans les heures et les minutes au moment de temps court de bascule qui finalement n'a pas eu lieu.
Et c'est vrai que, il a fallu beaucoup de temps pour que les gens apprennent le système décimal. Aux arts et métiers, on a eu une exposition il y a quelques années sur l'histoire du système décimal et sa naissance. Il a fallu en gros 40 à 50 ans pour que les gens arrêtent de compter en perches et en lieues et apprennent à compter en mètres et en kilomètres. Dans Alexandre Dumas, dans le comte de Monte Cristo, dans les années 1840, on compte encore en lieues. Et s'il n'y avait pas une forte volonté politique d'imposer le mètre, peut-être que le système métrique serait un flop.
Oui, et une généralisation internationale aussi.
Alors pour comprendre l'histoire des flops, il y a aussi cette notion clé, hein, qui est celle de la notion de système technique, selon laquelle en fait une invention n'est jamais isolée. C'est la typologie qui est proposée par Gilbert Simondon dans « Du mode d'existence des objets techniques ». L'innovation se produit rarement au niveau de l'objet lui-même. Et pour bien comprendre ça, on a un exemple de système technique innovant, c'est l'imprimerie.
Oui.
Gutenberg, c'est pas la nouveauté, c'est pas l'objet. Il est dans un nouvel écosystème de travail.
Tout à fait. Ça a été bien analysé, enfin, pas spécialement dans l'exemple de Gutenberg, mais en général, ça a été bien analysé aussi par Bertrand Gilles, qui est vraiment l'auteur de la notion de système technique, qui explique effectivement que l'histoire peut être comprise comme une succession de systèmes techniques où on trouve des techniques qui sont solidaires, qui sont en synergie les unes avec les autres et qui ne peuvent fonctionner que dans une communauté cohérente de techniques, où le progrès consiste à amener toutes les techniques à un même niveau de performance. Et comme on n'y arrive jamais, c'est une course en avant, on n'arrive pas. Gutenberg, c'est un exemple merveilleux, parce qu'il n'a pas seulement inventé les caractères mobiles d'imprimerie, ou réinventé, puisque ça existait en Chine depuis des siècles, mais on ne le savait pas. Gutenberg a rassemblé, encore une fois, inventer, c'est rassembler, faire fonctionner ensemble des technologies, des techniques ou des concepts qui jusque-là existaient dans des domaines différents. Le papier, lui qui avait été amené de Chine déjà depuis deux ou trois siècles à travers les pays musulmans, Gutenberg a dû inventer un alliage de plomb, mais pas seulement de plomb, pour que les caractères mobiles soient suffisamment résistants pour ne pas s'écraser sous la pression, ne pas s'user, et pas trop durs pour ne pas écorcher le papier. Entre le papier et les caractères de plomb, il fallait mettre de l'encre. Une encre assez grasse pour tenir sur le métal, au lieu de s'éparpiller en gouttelettes, et assez pas trop grasse pour pouvoir sécher assez vite sur les feuilles de papier. Et ensuite, comment imprimer, c'est-à-dire vraiment comment presser les feuilles de papier sur ces caractères en plomb, sur ces pages de caractères en plomb. Les Chinois utilisaient des brosses, ça restait un travail manuel. De toute façon, Gutenberg ne savait pas ce que faisaient les Chinois, mais Gutenberg habitait la vallée du Rhin, où il y a des vignerons. Merci, la vigne et le vin. Et les vignerons avaient des presses. Et ça a été très simple, très naturel d'adapter une presse de vigneron à la presse d'imprimerie. Et il a fait fonctionner tout ça ensemble. Donc d'abord, c'est un beau cas de parcours sans faute pendant 20 ans, avec un gros prêt de 800 florins d'un banquier qui s'appelait Foust et qui a prêté quand même à 6%, ce qui n'était pas donné. Gutenberg a mis 20 ans avant de vraiment sortir des livres. Au bout de quelques années, il a été viré de l'entreprise qu'il avait créée par les investisseurs.
Voilà, on peut être auteur
de réussite et un flop.
On peut être auteur de l'une des inventions les plus importantes de l'histoire de l'humanité en rassemblant comme ça des éléments techniques issus d'une myriade de champs et être auteur d'un flop personnel de grande ampleur. Alors, quelles sont les vertus de l'échec? Allez, on dédramatise les loupés après cette complainte du progrès.
Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant, c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufres, un avion pour deux. Et nous serons heureux. Autrefois, s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre, on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant, que voulez-vous? La vie est si chère. On dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah, Gudule, excuse-toi ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon
Boris Vian, la complainte du progrès en direct sur France Culture. Nous parlons des flops de l'histoire des techniques. On n'a pas parlé des lasagnes de la marque Colgate, ni des préservatifs en spray à la menthe, ni de la poupée Barbie à rollers qui fait des vraies étincelles avec un briquet au bout des roulettes. Mais on parle de toute cette histoire des ratés avec Marjolaine Chou, chef de projet de l'exposition Flop au Musée des Arts et Métiers à Paris, et Pierre-Éric Mounier-Coun, chercheur au CNRS qui enseigne l'histoire des sciences et des techniques à l'école centrale Supélec. Alors, on peut maintenant parler de toutes ces leçons que l'on peut retenir de cette histoire-là. Déjà, ce qu'on peut voir, Marjolaine Chou, c'est que déjà une innovation, ça prend du temps. Rome ne s'est pas faite en un jour.
Oui, tout à fait.
Les flops d'hier sont les réussites d'aujourd'hui.
On dit que toute innovation qui arrive aujourd'hui, qui devient un succès, existe déjà depuis très longtemps. Et on a vraiment cette notion du temps qui est très importante. On en parlait tout à l'heure avec la Pascaline, arrivée trop tôt. C'est le cas de beaucoup d'objets qui finalement arrivent trop tôt. Et puis c'est aussi des usages qui des fois n'existent pas. Il y a cette question du marché qui n'est pas prêt ou qui n'existe pas tout court. On a l'exemple même du téléphone portable. Nous on présente le Bebop dans l'exposition en disant que c'est un jalon finalement entre le téléphone fixe et le téléphone portable qu'on connaît. Mais c'est finalement quand même déjà une prouesse. Et au début, les gens se disaient « en fait, j'ai déjà un téléphone chez moi, un téléphone au travail, une cabine téléphonique si j'ai besoin de téléphoner ailleurs. Est-ce que j'ai vraiment besoin ?» C'est que pour les hommes d'affaires et qui ont déjà des radiocoms et tout ça. Et c'est le cas aussi de la visio. C'est un exemple qu'on développe dans l'exposition. La visiophonie, où on voit que même avant d'inventer le téléphone, on imaginait déjà de pouvoir se voir en se téléphonant. Et puis très vite, quand on a inventé le téléphone, on s'est dit « mais ça serait quand même génial de se voir ». Et il a fallu attendre presque un siècle avant que ça soit une pratique qui se généralise dans nos quotidiens. Bon, bien aidé par le Covid, évidemment. Mais il a fallu un perfectionnement technique, de passer de la télévision mécanique au tube cathodique, au réseau internet, et puis des questions de coûts aussi, des questions d'appareils et des questions d'usage aussi des gens, de se dire est-ce que c'est important pour moi de voir mon interlocuteur ou non, est-ce que c'est une vraie plus-value.
Voilà, le visiophone du rêve à l'usage concret, il aura fallu attendre 150 ans.
Nous parlions de télévision il y a quelques instants, Lucien Barnier, nous allons y revenir, car depuis cette nuit, les abonnés américains au téléphone sont des petits privilégiés. Ils peuvent voir maintenant leur interlocuteur grâce à un téléphone-télévision qui fonctionne depuis minuit exactement. Alors de quoi s'agit-il? Comment fonctionne cet appareil que l'on attendait, que l'on avait déjà vu dans des films de science-fiction?
C'est une grande première parce que ce téléphone-télévision que les Américains, finalement, après bien des hésitations, ont appelé le visiophone. Cet appareil était jusque-là en circuit expérimental entre New York et Los Angeles, dans une cabine publique, pour voir un peu qui s'en servirait et comment on s'en servirait. Et puis, devant le succès de cette expérience, on a décidé d'incorporer le visiophone dans le réseau public. Et en effet, à partir d'aujourd'hui, des usagers de Pittsburgh peuvent téléphoner et voir sur leur écran le visage de leur correspondant. C'est un écran qui mesure 12,5 cm sur 15 cm et qui donne des images de très bonne définition.
Alors comment fait-on? On fait un numéro sur le cadran.
Exactement.
On décroche et on a au moment de...
On a un appareil téléphonique.
L'interlocuteur décroche, on a son image sur un poste
de télévision. Exactement. Il n'y a pas de ligne supplémentaire. D'ailleurs, le grand problème technique a été de faire circuler sur une ligne téléphonique normale à la fois le son de la conversation et l'image du visiophone. Ça a été un problème très ardu. C'est pourquoi on en parle depuis si longtemps et que ça avait pris effectivement l'allure d'une promesse de science-fiction. Les Russes ont essayé, les Suédois ont essayé, des Français ont essayé, et c'est la belle téléphone avec sa puissance de recherche qui a résolu le problème.
Voilà un extrait du 13h de France Inter en 1970. À l'époque, c'est donc un échec total. Et puis, le visiophone, c'est l'éternel flop tout au long du 20e siècle. Tout le monde continuait à prédire à peu près tous les 20 ans le décollage imminent, Pierre-Éric Mounier-Coun.
Oui, y a-t-il une vie après le flop? Et la réponse est oui. C'est un très bel exemple d'objet qui a d'abord été imaginé, façon Jules Verne, Ensuite, il y a eu des expérimentations, des essais de développement dans la première moitié du XXe siècle où les techniques n'étaient pas vraiment mûres pour s'ajuster les unes aux autres, ni assez performantes pour porter à la fois de l'image et du son. Mais on y est enfin arrivé. Des ingénieurs des télécoms y sont enfin arrivés, en gros dans les années 60, au Bell Labs et aussi au Centre National d'Études des Télécommunications en France. Et là, une fois que les ingénieurs ont mis au point des systèmes de visiophonie qui fonctionnaient de façon assez satisfaisante, ils se sont dit, le marché va se jeter dessus, on va pouvoir les industrialiser et ça va être un succès immédiat. Oui, bien sûr, les grands-mères avaient très envie de téléphoner à leurs petits-enfants en les voyant. C'était oublié, et ça c'est un petit peu une illusion de technophile, c'était oublié qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de ce produit, d'abord parce qu'il y a déjà des téléphones et qu'on peut s'en satisfaire, d'autre part, les grands-mères et les petits-enfants, c'est très bien, mais quand vous êtes un employé, que votre patron vous appelle chez vous, vous n'avez pas forcément envie de voir sa binette et vous n'avez pas forcément envie non plus qu'il vous voie en pyjama.
Ça, voilà. On ne reviendra pas sur nos expériences de visio pendant le Covid. Alors, y a-t-il une vie après le flotte ? La réponse est oui aussi, du côté de la voiture électrique, Marjolaine Chouche.
Oui. On a retracé aussi cette petite histoire de la voiture électrique dans l'exposition. Là aussi, c'est une histoire de temps, c'est une histoire de contexte, c'est une histoire de système aussi. On sait, mais des fois, on oublie que la voiture électrique, c'est développé en même temps que la voiture thermique au début de la voiture. La voiture électrique était très courante pour des petits trajets, notamment des trajets en fiacre, donc en taxi, qui étaient donc électrifiés. Il y avait des bornes de recharge. On présente notamment dans l'exposition un guide rouge Michelin de 1902 qui indique par un pictogramme sur les cartes des villes les endroits où il y a des stations des bornes de recharge électrique. Donc il y avait déjà tout un réseau qui existait. Et puis très rapidement, les batteries sont arrivées un peu au bout des limites d'autonomie. Le projet ne pouvait pas se développer beaucoup plus loin. Et puis le thermique, s'est rendu beaucoup plus pratique. Et l'électrique n'a refait que des petits sauts de puce, en fait, dans nos vies, au moment où c'est l'essence, le pétrole qui manquait. Donc pendant les guerres mondiales, au moment du krach pétrolier. Et maintenant, à la faveur du changement climatique qui investit tous les secteurs, on vend la voiture électrique de nouveau comme une solution. Et donc, il y a vraiment cette histoire à rebond de la voiture électrique qui peut-être s'avérera un flop si on transfère complètement nos méthodes sur l'électrique.
Pierre-Éric Mouniekoun, sur justement ce face-à-face entre voiture thermique et voiture électrique dans l'histoire du 19e et du 20e et maintenant du 21e siècle.
Ça, c'est un cas typique de concurrence entre des produits plus ou moins substituables où on peut pas savoir à l'avance lequel finira par gagner, lequel deviendra un produit mainstream et marginalisera les autres. On voit ça aussi beaucoup dans les réseaux numériques. Bon, l'Internet a complètement évincé les réseaux numériques comme le Mini, qui marchait, qui n'était pas du tout des flops, comme le Minitel, Teletel, etc. Et l'histoire des techniques est pleine de technologies qui sont en concurrence pendant un certain temps. Et puis finalement, il y en a une qui émerge et c'est le cas de l'ordinateur à partir des années 50.
C'est ça d'ailleurs, le Minitel, rien ne le prédestinait à flopper. Ce qui a tué le Minitel, finalement, c'est le monopole économique, Marjolaine Chouche.
Oui, alors le Minitel, là aussi, ça a été un grand sujet de discussion quand on a préparé l'exposition. Parce que le Minitel, il est très ambivalent. Le Minitel, c'est loin d'être un flop. C'est pour beaucoup de Français, le premier objet communicant qu'ils ont eu chez eux. Ça a été très largement diffusé. Et finalement, quand on compare les usages du Minitel aux usages du web d'aujourd'hui, ils sont assez similaires. On utilisait le Minitel pour consulter l'annuaire, donc a priori les adresses et prévoir son itinéraire, pour réserver des billets de train, pour vérifier son compte en banque, pour commander en ligne. Finalement, c'est beaucoup de choses qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, pour avoir de la messagerie aussi, pour pouvoir parler. Donc c'est un objet qui a été précurseur parce que il est arrivé bien avant le déploiement d'Internet dans nos vies Et pourtant, il est aussi considéré par certains comme un objet un peu ralentisseur du développement d'Internet aussi dans nos quotidiens. Et c'est à ce titre-là aussi qu'on a voulu le mettre dans l'exposition parce que c'est pour montrer justement que tout ça, c'est pas un long fleuve tranquille en fait. C'est fait de détours, de retours, d'avancées, de reculs. Voilà, finalement, au moment où on a arrêté d'utiliser notre Minitel, on était en retard sur tous les autres qui utilisaient déjà Internet.
D'ailleurs, on a arrêté d'utiliser le verbe mini-télé qui a été retiré du dictionnaire.
Oui.
Ça aussi, c'est assez révélateur de nos usages. Alors, par rapport justement à cette philosophie du fail, on peut dire aussi que tout n'est pas bon acheté. On a évoqué le cas Aramis, projet qui a été abandonné, mais qui, la technique de pilotage automatique des métros a été réemployée dans l'automatisation des lignes 1, 14, 4 et prochainement la 13. Et puis, on a aussi ces cas de fiasco, de bide avec Apple et cette organiseur, Pierre-Éric Mouniekoun.
Oui, il y a des même dans les entreprises qui sont des emblèmes de super réussite qui explosent les capitalisations boursières comme Apple, il y a des histoires même célèbres d'échecs parce que d'une certaine façon Apple peut exploiter les à côté, les échecs, les demi réussites pour montrer qu'elle est capable de surmonter, qu'elle est encore plus forte que les autres alors qu'elle est partie de d'une toute petite équipe de 3 personnes. La question de la survie technique, ça me fait songer que, au fond, il n'y a pas de définition objective de ce qu'est un échec technique, sauf l'abandon. Un projet qui échoue, c'est un projet qu'on a abandonné. Un projet n'est pas un échec tant qu'on l'alimente en ressources, tant qu'on essaye de persévérer. Parfois ça marche, parfois ça aboutit plus ou moins tard à un échec, mais je ne connais pas de définition plus rigoureuse, scientifique de l'échec. C'est quand on abandonne, c'est un aveu d'échec. Alors maintenant, il y a des échecs qui sont porteurs d'enseignement. Vous les avez évoqués, mais c'est aussi un peu la rhétorique des gens qui échouent de dire « oui, je n'ai pas complètement réussi, mais que d'enseignements on va pouvoir en tirer pour aller de l'avant. Donc confiez-moi un nouveau projet ». C'est aussi oublier que la réussite peut être porteuse d'enseignements et d'apprentissage, peut-être tout autant. Il y a aussi des échecs dont on ne tire aucun enseignement parce qu'on est dans le déni. Un exemple qu'on a au Conservatoire des Arts et Métiers, c'est la machine de Coufignal, première tentative française de faire un ordinateur, qui a fait l'objet d'un déni total et d'un oubli, d'une amnésie complète, parce qu'on ne voulait pas admettre qu'il y avait eu un échec. Alors, le cas extrême de déni d'échec technique, c'est Staline, pour qui il n'existait pas d'échec technique, il n'y a que des noms et des adresses.
Alors, une autre histoire des techniques est-elle possible? Comment repenser le concept d'innovation? Restez avec nous.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
Direct sur France Culture avec Marjolaine Chouche et Pierre-Éric Mouniekoun, nous parlons de l'histoire des fiascos techniques. On a rapidement évoqué le Newton d'Apple, cet organiseur de poche qui a fait un bide lors de son lancement en 1993 et puis qui derrière a vu naître des célèbres composants comme l'iPhone, l'écran tactile, le concept d'application. Vous dites dans une interview, Marjolaine Chouche, que l'étincelle qui a déclenché cette exposition, c'est né d'un paradoxe frappant, la société française valorise l'innovation tout en entretenant une aversion pour l'échec. Pourquoi c'est un paradoxe ?
Oui, bah c'est vrai que c'est un paradoxe parce que souvent on parle du raté uniquement quand on a réussi. C'est un peu ce que disait Pierre-Éric à l'instant. On s'en sert pour valoriser la réussite. C'est uniquement dans ce cas-là. Or, l'échec, il est partout, il est tout le temps. Dans nos vies du quotidien, comme dans les grands projets structurants de nos sociétés et de l'innovation. Et on a l'impression que tout ça, il faut le cacher, il faut le taire. Là où on a l'impression, et je pense que ça n'est qu'une impression, On a l'impression que dans d'autres pays, dans d'autres cultures, c'est moins le cas. Et c'est vrai qu'on avait envie aussi de parler d'échec dans l'exposition pour le dédramatiser aussi, pour voilà montrer qu'il était partout et que très souvent il était pas si grave, voire nécessaire en fait, tout simplement pour pouvoir faire des choses. Et que ben c'est toujours le qui ne tente rien n'a rien. Ben qui ne tente rien n'échoue pas certes, mais ne fait rien du tout finalement.
On n'a pas encore évoqué Pierre-Éric Mounier-Koun, cet ouvrage de Bruno Latour, Aramis ou l'amour des techniques, où là on voit un ouvrage de théorie très critique sur l'innovation.
Sur l'innovation et sur la conduite de projet. C'est un des grands livres maintenant classiques sur les problèmes du management de grands projets techniques. Aramis, c'est un projet de transport en commun qui date du début des années 1970 et qui visait à créer un système de petits véhicules sur rails qui soient intermédiaires dans leur fonction sociale entre, en gros, le métro ou le tramway et la voiture individuelle. Donc c'était un moyen de transport collectif par petites unités, des petits véhicules de 4 à 10 sièges qui pouvaient se grouper en rames pour aller aux heures de pointe transporter des centaines de gens d'un point à un autre ou se subdiviser en petits véhicules qui desserviraient plus rapidement qu'avec des transports en commun classiques, des points, des arrêts. Et il y a eu beaucoup de divergences. D'abord, au départ, c'était un projet de recherche. Et puis trop vite, on a voulu en faire un projet industriel, donc avec des contraintes qui n'étaient plus les mêmes, et des contraintes de temps, notamment, et d'investissement. La tension a augmenté entre des commanditaires politiques qui, en plus, ont changé entre 1980 et le retour de la droite au pouvoir en 1986, donc avec pas tout à fait les mêmes exigences, pas tout à fait les mêmes partenaires. Il y avait une tension qui est bien montrée dans le musée avec des échanges de lettres un petit peu, c'est poli, mais on sent que c'est tendu, entre Matra, le constructeur, qui a mis au point un système de freinage et une architecture de voiture, et la RATP qui explique que c'est dangereux, ça atteint des niveaux d'insécurité qui ne sont pas tolérables pour la régie autonome des transports parisiens. Et entre les tensions politico-industrielles et les attentes différentes telles qu'on les perçoit des consommateurs, le projet finit par être abandonné en 1987. Et en fait, il n'est plus connu que parce qu'il a fourni le thème d'une sorte de deuxième thèse au sociologue Bruno Latour.
Voilà, on a cette thèse du sociologue Bruno Latour qui est donc dans cette exposition évoquée, et puis on a aussi cette portée poétique, voire esthétique, avec Jacques Carelman, qui est donc cet artiste pataphysicien avec donc une enclume de voyage, des protèges parapluies, un tandem convergent. Ce sont des œuvres absurdes qui attirent notre attention sur la futilité d'une culture entièrement fondée sur l'innovation à tout prix. Dans quelques secondes, on retrouve Alexandra Delbo pour sa chronique Avec Science. Mais un grand merci, Marjolaine Chouche. Merci d'avoir été avec nous.
Merci,
Pierre-Éric Mounier-Koun. Je rappelle que l'exposition Flop, qui n'est pas un flop, un gros succès, est visible au Musée des Arts et Métiers à Paris jusqu'au
17 mai 2026.
Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Tout de suite, on reste dans les technologies, plus exactement les télescopes. C'est la chronique Avec Science.
Comment améliorer encore le Very Large Telescope? Le VLT, c'est son petit nom, et maintenant on peut dire presque un vieil observatoire. Il a été mis en service en 1998, mais sa conception remonte aux années 80. À ce moment-là, le VLT n'est qu'un projet, et l'idée est de créer le plus grand télescope qui existe sur Terre. Et grand surtout par la taille de son miroir. Plus un miroir est étendu, plus il peut capter de lumière, et donc voir loin et de très petits objets. L'objectif initial était de parvenir à concevoir un miroir de 16 mètres de diamètre, mais c'était impossible à fabriquer d'un seul tenant. Alors, les scientifiques ont rusé. Au lieu de construire un énorme télescope, ils en ont construit 4. Thibaut Pomard est chercheur CNRS au LIRA de l'Observatoire de Paris et coordinateur et co-investigateur de la contribution française de Gravity Plus au VLT.
Pour avoir la même superficie qu'un miroir de 16 mètres, il faut 4 miroirs de 8 mètres de diamètre. Et là, il y a des gens, dont Pierre Léna, qui travaillait en France, qui est vraiment un précurseur, qui se sont dit « Oui, mais si on a 4 miroirs, faut pas simplement collecter les photons et les additionner comme ça, bêtement, quelque part. On peut faire beaucoup mieux. On peut faire de l'interférométrie avec ça, comme déjà, depuis les années 70, avec le VLA, on faisait dans le domaine radio. Donc, le VLT, au départ, c'est une énorme surface collectrice. Et puis, ça devient quatre miroirs plus raisonnables, mais c'était vraiment le mieux qu'on pouvait faire à l'époque, qui sont capables de fonctionner individuellement. Donc, chaque nuit, on peut avoir quatre télescopes qui vont faire des observations différentes, mais on peut aussi les utiliser tous en même temps pour obtenir la précision qu'on aurait avec un miroir qui ferait la taille du plateau sur lequel ils sont installés et qui fait 100 mètres de diamètre.
Avec ces quatre télescopes mis en réseau grâce à l'interférométrie, on dépasse de loin les 16 mètres que le projet visait au départ. C'est donc une première évolution avant même le début de son fonctionnement. Depuis, il a été doté de quatre télescopes plus petits et d'une flopée d'instruments. C'est notamment la seconde génération avec l'instrument Gravity qui permet, depuis 2016, de combiner les quatre gros télescopes ou les quatre plus petits pour en faire un miroir virtuel qui peut atteindre 200 mètres de diamètre. C'est donc un vieil observatoire, mais toujours à la pointe de la modernité. Mais il y a un mais. L'atmosphère terrestre brouille un petit peu les images. C'est le cas pour n'importe quel observatoire terrestre. Le VLT est implanté dans le désert d'Atacama, donc à plus de 2600 mètres d'altitude au Chili. L'atmosphère y est plus pure qu'ailleurs, mais il existe un phénomène de turbulence. Les couches d'air perturbent la trajectoire de la lumière. C'est pour cela d'ailleurs que quand vous regardez les étoiles la nuit, à l'œil nu, elles scintillent. Ce n'est pas l'étoile qui clignote, c'est l'air de notre planète qui dévie le chemin de la lumière. Pour corriger cela, il faut de petits miroirs déformables qui contrebalancent l'effet de l'air, mais surtout une étoile de référence pour calibrer tout ça. Jusqu'ici, les astronomes le faisaient avec des vraies étoiles bien brillantes et à proximité de la zone à étudier. Mais comment faire quand il n'y en a pas dans les parages? Eh bien, c'est la dernière évolution du VLT, des lasers créent de fausses étoiles.
On va utiliser un laser qui a été installé par l'ESO, donc l'organisme qui gère le VLT, l'organisme européen qui gère cet ensemble de télescopes. On va tirer pour chaque télescope un rayon laser à travers l'atmosphère qui va aller exciter des atomes de sodium en haute atmosphère à 90 km d'altitude environ. Et ça, ça crée un point lumineux sur lequel on va pouvoir analyser les perturbations atmosphériques qui vont nous permettre donc de déformer ce miroir en temps réel pour corriger ses effets sur la transmission de l'onde. Alors là encore, c'est pas une technique qui est tout à fait nouvelle, hein, mais c'est ce qui finit de faire progresser l'instrument. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, tous ces développements qu'on a fini par faire là en 2025, ils avaient été pensés dès 1989. Ils étaient déjà présents comme des choses dont on pouvait rêver à l'époque en se disant « Ah, ce serait vraiment super qu'on arrive à le faire », et maintenant on y est.
Les quatre gros télescopes sont dotés de ces lasers depuis 2 semaines. L'enjeu maintenant, c'est de les tester. Avec Gravity, les scientifiques étaient en mesure d'observer une poignée de trous noirs au centre de galaxies relativement proches de nous. Avec Gravity+, cette dernière évolution, plus de 1000 galaxies deviennent candidates à l'observation dans tout l'univers et jusqu'à des distances extrêmes, c'est-à-dire au plus près du Big Bang. Alors bien sûr, un nouvel observatoire géant arrivera bientôt, c'est l'ELT, l'Extremely Large Telescope, avec un miroir de 39 mètres de diamètre, mais la construction d'un nouveau télescope est extrêmement coûteuse en matériaux, en logistique, en personnel et en énergie. Faire du neuf avec du vieux, c'est le moyen qu'a trouvé l'astronomie pour se saisir des enjeux climatiques actuels et tenter de réduire autant que possible son bilan carbone. Avec ce mode interférométrie, le VLT restera donc encore et pour longtemps le télescope le plus puissant dont on dispose sur Terre.
Merci Alexandra pour votre chronique qui est, comme chaque jour, à retrouver sur franceculture.fr. Et merci à vous pour votre écoute. Un grand merci à toute l'équipe de la science CQFD. Ève Etienne, Noémie Maguet de Saint-Vulfranc, Loïc Dutoit, Céline Lausanne, Alexandre Morales, Joseph Schlegel à la réalisation. Olivier Bétard à la technique aujourd'hui, Raphaël Rousseau. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.